C'est depuis le libertinage qu'il faut essayer d'interroger l'œuvre de Kafka. Je crois même que l'effet massif, mythologique, que son œuvre a produit dans le genre sombre, métaphysique, vertigineux, fondamental, radical, et tous les commentaires qui se sont développés à ce sujet ont pour principal objet de ne pas poser la question de Kafka libertin empêché.
Boulevard de Port-Royal, Paris, Philippe Solers.
En ne posant pas cette question, on évite du même coup de se demander de quelle effroyable misère, non pas métaphysique, non pas vertigineuse, non pas prophétique, non pas messianique, non pas religieuse ou pré-religieuse, mais sexuelle, Kafka a témoigné pour son temps. Un temps d'effroyable misère qui fait que Casanova ou Don Juan, que Kafka, bien entendu, a toujours rêvé d'être, se trouve cantonné dans le désespoir et l'absence de perspective, qui est celle de tout le siècle où il se trouve et des habitants de ce siècle. Le château, ça n'est rien d'autre que le constat de l'impossibilité désormais de pouvoir agir le libertinage. Toute autre lecture est évidemment tout à fait erronée et intéressée. Une lettre à Milena, donc, qui est la suivante. Elle écrit. Elle fait partie des commencements du déferlement de la littérature féminine. Et il lui écrit ceci un mercredi. Connais-tu l'histoire de Casanova quand il s'évade des plombs de Venise? Oui, tu la connais. Il y esquisse un tableau de la vie de Cachot, au fond des culs de Basse-Fosse, dans le noir et l'humidité, au niveau des lagunes. On croupit sur une planche, l'eau arrive presque à la hauteur de cette planche et monte encore avec la marée. Mais le pire, ce sont les rats d'eau, féroces. On les entend piauler. Ils tiraillent, ils déchirent, ils rongent. On leur dispute le pain, je crois. Et surtout, ils attendent. Ils attendent avec impatience qu'on tombe de la planche à bout de force. Voilà le genre de tes histoires. Effrayantes, inconcevables, et surtout à la fois aussi proches et aussi lointaines que l'est à l'homme son passé. On croupit en haut sur la planche, ce qui ne donne pas au dos une ligne bien gracieuse. Les pieds s'ankylosent également, on a peur et pourtant on n'a rien d'autre à faire que de regarder les gros rats noirs. Ils vous crèvent les yeux au milieu de la nuit et finalement on ne sait plus si on est en haut ou en bas. On piaule, comme eux, et on ouvre une grande bouche avec les dents qui se voient au fond. Allons, allons, ne raconte pas de pareilles histoires. À quoi rime-t-elle? Allons, allons, je te pardonnerai ces bestioles à une seule condition, que tu les chasses de chez toi.
Oui, bien sûr. Enfin, quelle est la narration du château? Comment s'y est pris Kafka pour raconter cette histoire? Quels sont les points d'appui?
Pour raconter l'histoire de l'impossibilité du libertinage. Kafka ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sujet de la narration entièrement positif dans ses calculs et qui peut à chaque instant être maître du jeu des masques et mesurer tout l'état des corps qui se trouvent autour de lui d'après le savoir-faire de la technique libertine, on a tout au contraire, tout à l'envers, mais ce cas ça revient au même, un sujet de la narration passif, obligé d'arpenter, c'est le cas de le dire, l'absence de toute vérité sexuelle du lieu où il se trouve, et ça devient un traité géométrique dans la mesure où, au départ, cette inessentialité, cette pesanteur pourrait avoir sa réponse dans un centre éloigné qui se refuse, mais que petit à petit, ce qui se dévoile, c'est qu'il n'y a ni vampire, ni comte, ouest-ouest, ni marquis, ni aristocratie. Et par conséquent, ni perruque, ni bal, ni fête, ni balançoire, ni plaisir. D'aucune sorte, et qu'en réalité toute la démonstration va en arriver à travers les femmes, bien entendu, puisque les femmes sont en rapport avec le château, n'arrête pas de le souligner Kafka, c'est elles qui savent, elles savent rien, mais enfin elles sont censées savoir, par conséquent c'est sur elles qu'il faut faire le prélèvement et l'analyse du savoir du lieu, petit à petit, dans la féminisation de ce sujet de la narration, on va en arriver au dévoilement ultime qui ne se passe absolument plus rien que des événements périphériques, sans centre, et c'est pour ça que le château, c'est la démonstration que, désormais, le centre est partout et la circonférence nulle part. Et ce centre, il s'agit tout simplement de la superficialité absolue, c'est-à-dire de la fanfreluche. C'est le trajet absolument inverse de celui du libertin, qui part de la fanfreluche qu'il a fait mousser pour en arriver à l'essence. De l'apparence à l'essence, de l'essence à l'apparence, tout est devenu apparence, c'est-à-dire robe. Et ici, je crois que on n'a pas vraiment abordé la représentation des femmes dans le château, par conséquent, on ne parle pas du château. Il est du plus grand intérêt pour tous les tartineurs de métaphysique inutile d'éviter de lire ce roman, c'est-à-dire la question qui est ici la principale. On peut prendre pour démarrer la démonstration une note de Kafka qu'il a écarté de sa rédaction, mais qui dit exactement ce que j'essaye de suggérer. Frida attend aussi, mais elle n'attend pas K. Elle observe l'hôtel des messieurs, et elle observe K. Elle n'a pas d'inquiétude à avoir, sa situation est meilleure qu'elle ne s'y attendait elle-même. Elle peut voir sans envie Pépi s'évertuer et croître en considération. Elle fera cesser la chose à temps. Elle peut également voir en toute sérénité comment K se comporte loin d'elle. Elle ne permettra jamais à ses vagabondages d'aller si loin qu'il la délaisse entièrement. Le château, c'est la démonstration, on pourrait dire, en forme de commentaire réaliste, à la Cervantes, si on veut, des conséquences de la Révolution française, à savoir qu'on tombe du comte, C-O-M-T-E, au pouvoir de l'hôtelière. À ce moment, la porte s'ouvrit. Pépi en eut un frémissement. Ses pensées l'avaient trop éloigné du débit. Mais ce n'était pas Frida, c'était l'hôtelière. Elle fit semblant d'être étonnée de trouver encore K dans la salle. Il s'excusa en lui disant qu'il était resté pour l'attendre et la remercia en même temps d'avoir pu passer la nuit là. L'hôtelière ne comprit pas pourquoi il l'avait attendue. K dit qu'il avait eu l'impression qu'elle voulait encore lui parler et lui demanda pardon si c'était une erreur. D'ailleurs, maintenant, il devait partir. Il avait abandonné trop longtemps l'école où il était concierge. C'était l'invitation de la veille qui avait été la cause de tout. Il lui manquait l'expérience de ces choses. Maintenant, on ne le reverrait jamais causer de tels ennuis à Madame l'hôtelière. Et il s'inclina pour partir. L'hôtelière le regarda comme si elle le voyait en rêve. Et ce regard le retint plus qu'il n'eût voulu, d'autant plus qu'elle sourit un peu et ne revint à elle que devant son étonnement. On aurait dit qu'elle avait attendu qu'il répondît à son sourire et qu'elle s'éveillait, faute d'écho. « Je crois, dit-elle, que tu as eu hier le front de parler de ma toilette ?» K n'en avait aucun souvenir. « Tu ne te rappelles rien, dit-elle, après la lâcheté, l'effronterie ?» K s'excusa sur sa fatigue de la veille. Il avait bien pu lui échapper une parole inconsidérée, mais il n'en avait pas mémoire. Qu'aurait-il d'ailleurs bien pu dire de la toilette de Madame l'hôtelière, qu'il n'en avait encore jamais vue d'aussi belle ? Ou du moins, qu'il n'avait jamais vu d'hôtelière ainsi vêtue pour travailler. « Cesse tes réflexions, dit l'hôtelière, je te défends de dire un seul mot sur mes vêtements. C'est un sujet qui ne te regarde pas. Je te l'interdis une fois pour toutes. » K s'inclina de nouveau et se dirigea vers la porte. « Que veux-tu dire ?» lui cria l'hôtelière, « quand tu racontes que tu n'as jamais vu une hôtelière ainsi vêtue pour travailler. Que signifient ces remarques absurdes ? Car elles sont complètement absurdes. Qu'entends-tu par ces réflexions ?» K se retourna et pria l'hôtelière de bien vouloir ne pas s'irriter. Sa remarque n'avait aucun sens, il n'entendait d'ailleurs rien aux vêtements. La moindre robe propre et sans reprise, dans sa modeste situation, lui faisait déjà l'effet d'une toilette magnifique. Il avait été étonné, la nuit passée, de voir Madame l'hôtelière apparaître dans le couloir en si belle robe du soir, au milieu de tous ces hommes encore à peine vêtus. Il n'y avait pas d'autre mystère. Eh bien, tu vois, dit l'hôtelière, tu as l'air de finir par te souvenir de ton observation d'hier soir. En y ajoutant de nouvelles âneries, que tu n'entends rien aux vêtements, ça, c'est exact. Mais alors, je t'en prie, sérieusement, cesse de juger de ce qui est une riche toilette ou une robe du soir déplacée et autres détails du même genre. D'une façon générale, elle eut comme un frisson. Cesse à jamais de t'occuper de ma toilette. Tu as entendu? Et puis, car se taisant, prêt à faire demi-tour, elle lui demanda. Où as-tu pris ta science des costumes? K haussa les épaules, il n'avait pas de science. Non, en effet, tu n'en as pas, dit l'hôtelière. Ne t'avise donc pas de t'en attribuer une. Viens au bureau, je te ferai voir quelque chose qui rabattra, je l'espère, ton caquet pour longtemps. Elle passa devant. Pépi rejoignit K d'un bond et, sous prétexte de lui faire régler sa note, convint lestement avec lui d'un rendez-vous pour la soirée. Ce fut facile. K, connaissant la cour, dont le portail donnait sur une rue latérale, à côté de ce portail, il y avait une petite porte. Pépi serait derrière dans une heure. K n'aurait qu'à frapper 3 coups pour se faire ouvrir. Le bureau personnel des patrons se trouvait en face du débit. Il n'y avait que le couloir à traverser. L'hôtelière était déjà dans la pièce éclairée et regardait K avec impatience. Mais ils furent encore dérangés. Gerstacker était dans le couloir attendant K pour lui parler. Il ne fut pas facile à chasser. L'hôtelière dut intervenir et lui reprocher son importunité. La porte était déjà refermée, qu'on entendait le malheureux crier encore « où donc ?» demandait-il, et ses paroles se mêlaient hideusement à ses soupirs et à sa toux. La pièce où se trouvait le bureau était petite et surchauffée. Contre les murs les plus courts, il y avait un pupitre à écrire debout, et un coffre-fort en métal. Contre les plus longs, une ottomane et une armoire. C'était l'armoire qui prenait le plus de place, car non seulement elle occupait toute la longueur de l'un des murs, mais elle avançait dans la pièce au point de la rendre très étroite. Il fallait 3 portes à glissière pour pouvoir l'ouvrir complètement. L'hôtelière pria K de s'asseoir sur l'ottomane et s'installa elle-même sur un fauteuil tournant qui était placé devant le pupitre. « Tu n'as même pas pris le métier de tailleur ?» dit-elle. « Jamais, » répondit K. « Quelle est ta profession ?»« Arpenteur. »« Qu'est-ce que c'est ?» K le lui expliqua. L'explication la fit bâiller. « Tu ne dis pas la vérité. Pourquoi ne la dis-tu pas ?»« Tu ne la dis pas non plus. Moi ?» Voilà que tu recommences avec tes insolences. Et quand bien même, je ne dirai pas la vérité, ai-je à t'en rendre compte? Et en quoi ne la dis-je pas? Tu n'es pas une simple hôtelière, comme tu le prétends. Voyez-vous ça, le beau je sais tout. Et que suis-je d'autre à ton avis? Ton toupet commence réellement à passer l'imagination. Ce que tu es d'autre, je n'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que tu es hôtelière et que tu portes des toilettes qui ne sont pas faites pour ce métier et que personne ne porte au village. Nous en venons donc tout de même au fait. Tu ne sais rien taire. Peut-être n'est-ce pas effronterie. Tu es peut-être seulement comme un enfant qui a appris quelques sottises et que rien ne peut t'empêcher de la dire. Hein? Eh bien, parle. Qu'est-ce qu'elles ont, mes toilettes? Que leur trouves-tu de particulier? Tu m'en voudras si je le dis. Non, non, j'en rirai. On rit des propos d'un enfant. Alors, qu'ont-elles? Tu veux le savoir? Je trouve leur tissu excellent, la matière première est parfaite, mais elles sont démodées, surchargées, retouchées, râpées. Elles ne conviennent ni à ton âge, ni à ta silhouette, ni à ta situation. J'en ai été frappé dès notre première rencontre, dans ce couloir même, il y a 8 jours. Ainsi nous y voilà, Mes robes sont démodées, surchargées, et puis quoi encore? Et d'où le sais-tu? Je le vois. Tu le vois? Tu le vois tout court. Il te suffit de tes yeux. Tu n'as besoin de demander nulle part. Tu sais d'instinct ce qu'exige la mode. Sais-tu que tu vas m'être précieux? Tu vas me devenir indispensable. Car j'ai un faible, je l'avoue, pour l'élégance. Que vas-tu dire en voyant cette armoire pleine de robes? Et ouvrant le meuble tout grand, elle en découvrit une armée, serrée, pressée l'une contre l'autre, qui occupait toute la profondeur et toute la longueur de l'armoire. Des robes foncées, pour la plupart grises, brunes ou noires, pendues avec grand soin et sans aucun faux pli. Voilà mes robes, ces toilettes démodées, ces habits surchargés, suivant ton expression. Et s'il n'y a là que celles qui ne peuvent pas tenir dans ma chambre, j'en ai encore là-haut deux armoires qui sont pleines, deux armoires dont chacune est presque comme celle-ci, tu es étonné? Non, lui répondis-je, je m'attendais à quelque chose de ce genre. Je disais bien que tu n'es pas une simple hôtelière. Tu cherches autre chose que l'hôtellerie. Je ne cherche rien. Je ne cherche qu'à être bien mise. Et tu es un fou, ou un enfant, ou un homme méchant et dangereux. Va-t'en, et dépêche-toi de filer. K était déjà dans le couloir, Augusta Kerr l'avait rattrapé par la manche, quand l'hôtelière cria encore, « Demain, j'aurai une nouvelle robe. Je t'enverrai peut-être chercher. » Je voudrais insister sur un point, c'est que, comme le séducteur, beaucoup mieux que Kierkegaard, bien sûr, Kafka est avant tout quelqu'un qui sait comment les femmes sont divisées, c'est-à-dire comment elles ne s'aiment pas. Comment elles ont conscience d'être un néant habillé d'autre chose, c'est-à-dire de pouvoir. Mais comme il ne peut pas jouir de ce savoir, sa technique d'intervention consiste à présenter cette conscience de la division comme s'il était à la place féminine, justement. Et c'est ce qu'on voit très bien ici.